Salut à tous, bienvenue sur lematin.ch pour un nouvel épisode d'Au Café Avec. Après la glace des hockeyeurs et la neige des skieurs, on retourne sur la glace, mais cette fois pour rencontrer un ancien curleur. Christian Maillard est allé interviewer Peter De Cruz, l'ancien skip du team qui portait son nom, et il nous parle de sa nouvelle vie, mais aussi du team Schwaller et des mondiaux qui commencent ce samedi à Schaffhouse et où l'équipe de Suisse espère briller. Bonne écoute d'Au Café Avec.
On a rendez-vous ici dans cette curling, c'est le curling club de Genève, ça s'appelle.
C'est le curling. Maintenant, c'est le curling club Trois Chênes Genève.
Trois Chênes Genève.
Ouais, on allait prendre le nom quand même. Des...
Voilà. À ton bureau. Chinois. C'est quoi ton boulot maintenant?
Mon boulot, c'est manager du curling club Trois Chênes. Mm-hmm. Je suis à 70% pour le club et je gère le club, le côté administratif, les événements. Et toute autre activité qui se passe ici, que ce soit de la location de glace, que ce soit des manifestations, et contact avec les membres, etc., etc.
C'était inévitable. C'est ta vie ici, t'as passé beaucoup de temps ici, tu ne pouvais pas t'arrêter comme ça.
Oui. En fait, ce job, il me donne deux opportunités. En fait, pendant ma carrière sportive, j'ai fait un diplôme de management sport. À l'université de Lausanne, c'était un CAS, et en fait je me suis, en fait j'étais professionnel de curling pendant 7 ans, donc je, professionnel, c'est-à-dire j'ai fait que ça, je gagnais pas hyper bien ma vie, mais je faisais que ça, et je me suis toujours dit, si je m'investis à fond dans quelque chose, je vais développer des compétences, et au bout d'un moment, bah, arrivé à la retraite, je prendrai le temps de faire ma transition professionnelle. Et en fait, ce job m'a permis, sans avoir trop de pression, de m'ouvrir vraiment au monde du travail, de faire cette transition un peu douce au monde du travail, mais tout en restant dans un cadre assez familier, comme tu as dit. Et je me sens chez moi, je me sens assez à l'aise. Et le club aussi profite aussi de m'avoir comme tête de gondole, j'ai envie de dire. Pour se faire de la promotion, pour se faire de la pub, pour profiter de mes compétences, que ce soit au niveau technique, mais aussi de management sport. Donc en fait, c'était un petit peu gagnant-gagnant. Puis là, on voit que ça porte ses fruits, en tout cas au niveau de nos objectifs club qu'on s'était fixés au début de l'emploi. Et moi, en même temps, ça me donnait un projet où je pars un peu de zéro, où il y a beaucoup d'opportunités et beaucoup de choses à construire. Mais on va dans le bon sens, ça prend du temps parce que je suis le seul employé du club, on va dire. On a celui qui fait la glace, je suis le seul employé du club. Puis pour ça, de travailler des bénévoles, c'est pas toujours facile en semaine, puis les choses prennent un petit peu plus de temps que dans une autre organisation, mais c'est gagnant-gagnant pour tout le monde.
Ton boulot, donc, c'est l'ordinateur, c'est de gérer des choses. Est-ce qu'il y a de l'entraînement avec des gamins ou ça c'est vraiment fini, tu passes plus le balai?
Alors, je vais très rarement sur la glace. Si je vais sur la glace, c'est pour dépanner. Tout d'un coup, un moniteur d'initiation ne peut pas venir en last minute et moi je suis sur place, donc ça va. Ou s'il faut s'occuper d'un groupe un peu plus important sur la glace. Je vais dessus, mais c'est un peu plus rare. Je fais un petit peu de formation, j'ai fait des menus de formation pour les membres, des choses comme ça qui valorisent un petit peu ce qu'on cherche à faire, mais sinon c'est principalement de l'administratif derrière l'ordinateur, beaucoup être au contact des membres, regarder ce qui se passe, analyser, voir un petit peu où on peut faire les choses mieux pour déjà s'occuper de nos membres actuels, mais aussi développer les activités. On a trois catégories de joueurs, un petit peu. On a les catégories membres qui viennent régulièrement deux, trois fois par semaine. On a ceux qui viennent de temps en temps, je dirais une fois par mois. Puis après, on aimerait vraiment ouvrir à d'autres qui aimeraient jouer de manière un peu plus ponctuelle, un peu plus libre. Et là, il y a pas mal de travail à faire, mais c'est beaucoup de mise en place. Et on n'a pas forcément encore beaucoup, beaucoup de ressources pour le faire. Alors, on sait que qu'on devrait en avoir au bout d'un moment, dans le sens qu'on se développe et on a de plus en plus de ressources, donc on va dans le bon sens. Mais ça reste une zone encore, encore difficile à structurer.
Et les championnats suisses, qui est un bel événement ici pour le club, il y aura d'autres choses que vous traitez par la tête, les championnats d'Europe, je sais pas, du monde.
Alors, on a travaillé, je dirais, sur trois aspects. Le premier, c'est les compétitions vraiment locales slash régionales, où là, c'est plutôt les membres du club, des membres des clubs voisins, que ce soit français ou romands. Là, on a mis pas mal l'accent dessus, parce qu'on aimerait vraiment être un club référence, en tout cas en Suisse romande. On a aussi travaillé des événements de formation de qualité pour permettre à nos membres en fait, de profiter ben, de mes ressources, mais aussi de celles qu'on a avec le Team Schwaller, par exemple, et aussi d'autres personnes très compétentes qui côtoient le club. Et l'autre chose aussi, c'est d'organiser une fois par saison, une fois toutes les deux saisons, des compétitions majeures qui nous permettent de faire de la communication et puis de gagner en notoriété au niveau national, voire même international. Mm-hmm. Et je pense que là, on a organisé 3 ans de suite le championnat suisse dames et messieurs, et qui s'est toujours très bien passé. On a eu d'excellents échos. Maintenant, on est aussi centre régional de performance pour Swiss Curling, donc on peut envisager continuer à organiser des compétitions de ce calibre. La prochaine grande, on sait peut-être, mais on ne peut pas encore le dire. Et ça, on ne peut pas le communiquer avant un petit moment. Mais le but, c'est d'organiser vraiment de manière régulière des grosses compétitions comme ça pour offrir aussi la possibilité à nos membres vraiment de voir du curling de classe mondiale. Mmh. Et ça suit en tout cas dans nos objectifs de développement. Mmh.
La glace, les matchs, l'adrénaline, quand on voit le championnat suisse ici, tu avais un œil et plutôt deux. Sur les matchs, ça ne te manque pas trop?
La compétition, ça ne me manque pas du tout, mais le jeu, ça me manque, je pense. J'aurais pas envie de me relancer dans de la compète, parce que je sais ce qu'il faut faire pour y arriver, et puis c'est juste trop. Et enfin, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai arrêté. Donc ça confirme ma décision. Par contre, le jeu d'être la sensation sur la glace, les pierres en main, les choses comme ça c'est des en fait c'est plus les sensations que j'avais quand j'avais commencé le curling qui m'ont fait aimer ce sport, et en jouant moins, bah du coup j'ai moins d'opportunités de pouvoir m'amuser en jouant au curling, donc les rares fois où je joue, en tout cas, je prends beaucoup, beaucoup de plaisir. Mmh.
Comme l'a si bien et joliment écrit l'ami Pascal, c'était une pierre qui glisse de la maison, j'ai beaucoup aimé cette expression. Ouais. C'était un tremplin, comme tu viens de le dire, c'était le moment.
Ouais, c'était vraiment le moment. En plus, on sortait le cycle olympique Pékin, c'était le cycle olympique Covid aussi.
Mmh. Ah ouais, juste, ouais.
Et pour beaucoup de gens, je pense que ça a été un accélérateur, que ce soit au niveau relationnel, professionnel, etc. Puis ça nous a fait beaucoup nous remettre en question par rapport à nos pratiques. Et c'est vrai que pour Valentin aussi et moi, par exemple, ça a été un accélérateur dans le sens que OK, on a fait assez, on a vraiment donné, c'était assez restrictif, beaucoup de contraintes, c'était pas facile, c'est pas forcément hyper bien fini. Sur le moment, après, avec du recul, c'est super tout ce qu'on a fait. Mm-hmm. Mais c'était le moment de dire stop.
Vous avez gardé contact, vous voyez de temps en temps, vous êtes vu pendant le championnat suisse, c'est presque comme avant, il y a quand même une...
C'est... Le contact avec des anciens coéquipiers, je dirais, reste assez souvent dans le même cadre qu'on avait avant, sauf que Valentin et moi, maintenant, on a changé de rythme. Mm-hmm. Et du coup, je dirais, dans les choses qu'on a en commun, l'amour du sport, aussi notre amitié, bah, on se voit, mais beaucoup moins qu'avant, évidemment. Mmh. Mais on reste très, 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 très proche. Mmh.
Ouais. Bon, il y a le mariage, la ouais. naissance des petits princes, les jumeaux. Ouais. Ouais. C'est une nouvelle vie. C'est intense, c'est une vie ouais. intense aussi.
Oui, c'est intense. Ouais.
Bah, pas avec ta femme, mais avec les enfants.
Oui, aussi. Non, c'est une vie intense avec tout. Parce qu'en fait, ce qui change. Alors, c'est mon avis. Je dirais une carrière de sportif d'élite, c'est une carrière qui peut être considérée, entre guillemets, sans connotation négative, comme une carrière assez égoïste, dans le sens qu'on se centre sur nous-mêmes. Et notre outil de travail, en fait, c'est nous-mêmes, c'est notre corps. Et ça passe avant tout. Donc, s'il faut sacrifier des choses pour être en forme, sacrifier des choses pour aller à l'entraînement, sacrifier des choses pour que nous, on soit performants, on le fait. Et après, quand on est sportif d'élite, on le fait à des niveaux plus extrêmes que d'autres. Et je dirais que l'ordre des priorités pour un sportif d'élite, c'est soi-même, c'est tout en haut, c'est numéro un. Après, il y a le reste, ou numéro un avec d'autres choses, bien entendu. Et quand on se marie, ça commence à changer un petit peu. Puis quand on a des enfants, l'ordre des priorités est inversé, en fait. Enfin, on se retrouve à être là. Enfin, le penser à soi-même se retrouve presque tout en bas. Et je dirais que c'est peut-être ça le changement principal, c'est d'avoir été tellement sur moi-même, comment je peux faire mieux, qu'est-ce que je dois faire, me remettre tout le temps en question moi-même, puis là du coup on est sur le terrain, puis on le fait, puis on pense à la petite et au petit d'abord, et puis et ça c'est pas facile, mais c'est constant, parce qu'on va au travail le matin, on revient en fin de journée, c'est les préparer au lit, puis après les soirées c'est jamais hyper évident, puis le lendemain matin il se réveille tôt, puis on enchaîne, puis tout d'un coup il faut repartir au travail, puis en fait il n'y a pas eu une période de 20-30 minutes où on a pu juste décompresser, quoi. Donc c'est intense, mais je pense pas que je le changerais si je pouvais.
Ça te plaît, hein? C'est tout aussi beau qu'un match, qu'un beau match, qu'une victoire,
C'est
différent.
Ouais. En fait, quand on est dans le sport, on sent et on sait que c'est difficile, mais on sait, en fait, c'est cette difficulté qui valorise la pratique, enfin qui valorise ce qu'on fait. Et là, en fin de compte, c'est un peu la même chose, c'est de dire c'est ultra difficile, mais si on nous enlevait ça, c'est quelque chose qui fait partie de nous, et de dire ok, si on était confronté à dire ok, finalement t'es papa, mais si tu ne l'étais plus maintenant, que j'avais l'option de dire ok, je le suis plus, puis je peux reprendre d'autres choses, je le ferais pas. Je garderais, je resterais dedans, parce que c'est hyper valorisant aussi de s'occuper des deux petits. Hein.
Tu es encore, tu as vu les matchs ici, mais tu as toujours un œil sur leurs matchs, parce que tu as une analyse sur cette nouvelle équipe, oui. la Team Schwaller, c'est la Dream Team, j'ai écrit, est-ce que c'est aussi le cas pour toi?
Oui, je regarde énormément de leurs matchs, je regarde jamais les matchs en entier, parce que j'ai jamais le temps. Mais je regarde énormément de petits bouts, on va dire, ici et là, peut-être des petits highlights ou des clips qu'on m'envoie de certaines choses. Mais je les suis beaucoup juste parce que, en fait, c'est cool de les voir jouer et ils jouent bien. J'ai pas envie de dire s'ils étaient mauvais, je les regarderais pas, mais je prends beaucoup de plaisir à les regarder juste parce que, alors, y a des amis, donc il y a un attachement émotionnel. Mais en fait, parce qu'il joue super bien. Et en fait, ça me dérange pas du tout même de dire qu'ils sont plus complets que ce que nous on était, qu'ils sont plus réguliers, qu'ils sont... Ouais, ils ont réussi à développer un état d'esprit dans l'équipe qui est très sain, je pense, autour d'eux, puis un cadre d'équipe qui est très sain. Et je pense que chacun y trouve sa place. Et ouais, Dream Team, je sais pas, mais en tout cas, ils ont un super équilibre. Ouais. Mmh. Ils ont vraiment un super équilibre et ils ont des grosses compétences et des postes clés.
Mmh. Ouais. Mais toi, si t'avais encore envie, tu pourrais faire partie de cette équipe-là.
Probablement pas.
Non.
Non. Je dirais non parce que moi j'ai toujours eu plus ou moins les mêmes coéquipiers et c'était toujours un peu la même équipe et on avait toujours un peu nos mêmes façons de faire à nous, vraiment propres à nous. Donc c'est impossible pour moi de dire si j'avais envie je pourrais. C'est une équipe qui est avec une partie des mêmes joueurs mais qui est probablement totalement différente de ce que nous on avait. Ouais. En termes peut-être même de valeurs et les objectifs restent plus ou moins les mêmes, mais des choses fondamentales d'équipe sont sûrement très différentes.
Champion du monde qui arrive à Schaffhouse en Suisse, avec cette équipe qui va représenter la Suisse, avec de grandes chances, j'imagine. Enfin, ils peuvent aller au bout comme les Canadiennes l'année dernière.
Ouais. Je pense qu'ils savent qu'ils ont le potentiel d'aller au bout. Après, c'est vrai qu'avec leurs récents résultats, le public aussi... Alors, dans le monde du curling, hein, ça reste pas... ça reste un sport quand même niche, mine de rien. Mais en tout cas, dans leur entourage et l'environnement curling suisse et même mondial, je dirais que les gens les attendent au tournant. C'est-à-dire que les gens maintenant s'attendent à ce qu'ils soient dans le dernier carré et qu'ils aient une bonne chance d'y arriver. Mm-hmm. Et ça, c'est... Enfin, je dirais un championnat du monde en Suisse, pour les hommes, il n'y a presque jamais eu ce même niveau d'attente sur l'équipe. Et à voir comment ils arrivent à le gérer. Je pense que pour contre des équipes plus faibles, je pense que ça peut leur donner clairement un très gros avantage. Parce que du moment qu'ils seront en avant, ils vont recevoir un gros soutien aussi du public. Et ce sera très difficile pour les adversaires de régater avec eux. Après, contre les tout bons, les tout bons, ils peuvent jouer maintenant presque parfait, quoi. Les Écossais, les Suédois, les Canadiens, les Italiens.
Ouais.
C'est un peu les grosses nations. Hein. On sait qu'ils sont... Enfin, ils peuvent jouer parfaitement. Mmh. Ils peuvent vraiment réussir à faire le match parfait. Et quand on joue des équipes qui font le match parfait, en plus, c'est un championnat du monde qualificatif pour les Jeux. Mmh. Le premier, il y a suite 2024, suite 2025. C'est les deux championnats du monde où on marque des points pour se qualifier pour les Jeux.
Okay.
Du coup, ils vont être chauds. Mm-hmm. Ils vont être chauds et ça va pas être évident. Il y a aussi les États-Unis qui sont pas mal. Ouais. Ça va vraiment pas être facile, mais ils ont clairement l'opportunité. Ils auront le soutien sur place, c'est clair. Mm-hmm.
Ouais. Toi, tu vas y aller.
J'y vais normalement 2 jours.
Ah.
Ouais. J'y vais 2 jours. J'ai même ma femme qui a accepté que je passe la première nuit en dehors de la maison.
Ah ouais.
On va dire pas accepté. Non, parce que ça c'était pas. C'était pas une négociation, mais enfin, elle sait que ça me fait plaisir. Mmh. Puis je peux enfin aller prendre l'air, je dirais, entre guillemets, puis aller les voir, puis juste être spectateur. Mmh. Ça, c'est chouette.
Ça fait partie des concessions dans un couple.
C'est ça. Non. Alors, je vais prendre une semaine derrière, après. Je rigole. Non, mais c'est clair. Ouais. C'est clair.
Bon. Et bien tous les jeux après, hein, ça sera à 2 ans des jeux. Hein,
ouais, ça va vite. Ouais. Ouais. 23 mois là.
Ouais, Pékin, si tu y penses de temps en temps.
Non, pas du tout. En fait, je repense beaucoup plus à. À Pyeongchang qu'à Pékin. Ouais.
Ouais.
Ouais. Je me souviens de tout, évidemment. Mais je me souviens plus de Pyeongchang, mais je dirais même que je me souviens plus de des choses en dehors des jeux. Je dirais.
Oui, tandis que Pékin, on ne pouvait pas sortir.
On ne pouvait pas sortir, mais ouais. Plus qu'en fait, les. Alors, quand je revois surtout mes anciens coéquipiers, les moments dont on parle, c'est jamais les jeux. Et c'est toujours les petites histoires à la con, les petits ragots dans les petits villages, les machins, les galères qu'on a eues dans les voyages, des événements qui étaient bien ou moins bien, enfin, la préparation et tout. C'est plus le travail qui revient comme sujet de discussion que les Jeux Olympiques, quand même.
Bon, à 34 ans, t'es encore jeune. T'as des rêves encore
On m'a posé cette question l'autre jour. Et j'ai pas pu répondre. Je crois pas que j'ai de rêves. Mais. Je pense que j'ai besoin d'encore 2-3 ans avant de. Rêver d'autre chose.
Mmh.
Par contre, j'espère vraiment rester en bonne santé. Ça, c'est clair. Ouais, ouais. C'est quelque chose sur lequel je... Enfin, on peut pas tout contrôler, quoi, mais... Mais ça, c'est probablement une grosse clé du plaisir, on va dire.
Tu te maintiens bien, là ?
Non, je me fais très peu. C'est juste que je mange moins. Mais j'ai quand même pris 4-5 kilos. Ouais, j'ai quand même pris 4-5 kilos. Et pas de muscles.